L'héritage. Le passé est imprévisible. Jean Grosjean. 1. L'air marin qui montait de l'océan revigorait autant qu'il abrutissait. Nous étions de nouveau dans le jardin, assis de part et d'autre de la table en bois. Mon père me tendit un vieux stylo plume en acier satiné.
À présent, tu connais les deux engagements à respecter, Arthur. Tout est notifié dans ce document. Libre à toi d'accepter ou de refuser. Je te donne 5 minutes pour te décider et signer les papiers. »
Il s'était ouvert une nouvelle bière et semblait avoir repris du poil de la bête. Je le dévisageais longuement. Jamais je n'étais parvenu à le cerner, à le comprendre, à savoir ce qu'il pensait vraiment de moi. Pendant des années, pourtant, j'avais essayé de l'aimer, envers et contre tout. Frank Costello n'était pas mon père biologique. Même si nous n'en avions jamais parlé ensemble, nous le savions tous les deux. Lui, sans doute, bien avant ma naissance. Moi, depuis le début de l'adolescence. Le lendemain de mon 14e anniversaire, ma mère m'avait avoué que pendant l'hiver 1965, elle avait eu une aventure de plusieurs mois avec celui qui était à l'époque notre médecin de famille. Cet homme, un certain Adrien Langlois, était reparti au Québec peu de temps après ma naissance. J'avais encaissé la nouvelle de façon stoïque. Comme beaucoup de secrets de famille, celui-ci avait eu tout le temps d'infuser sournoisement. Aussi, cette révélation m'avait presque soulagé. Elle avait le mérite d'éclairer certains des comportements ombrageux de mon père à mon égard. Ça peut paraître étrange, mais je n'ai jamais cherché à rencontrer mon géniteur. J'avais mis cette information dans un coin de ma tête, puis je l'avais laissée dériver lentement, jusqu'à presque l'oublier. Ce ne sont pas les liens du sang qui font la famille. Et dans le cœur, j'étais un Costello, pas un Langlois.
« Bon, tu te décides, Arthur » cria-t-il. « Tu la veux, cette baraque, ou pas ?»
Je hochai la tête. Moi, je ne désirais qu'une chose, mettre fin à cette mascarade le plus vite possible et rentrer à Boston. Je décapuchonnai le stylo, mais au moment d'apposer ma signature en bas du document, je tentai une dernière fois de renouer le dialogue. Tu dois vraiment m'en dire plus, papa.
Je t'ai dit tout ce qu'il y avait à savoir,
s'énerva-t-il. Je lui tins tête.
Non, si tu n'as pas perdu la raison, tu sais très bien que rien de tout ça ne tient debout.
Je cherche à te protéger.
Les mots avaient fusé, intrigants, inattendus, teintés de sincérité. Alors que j'écarquillais les yeux, je vis que ses mains tremblaient.
Me protéger de quoi ?
Il alluma une nouvelle cigarette pour se calmer, et quelque chose sembla se dénouer en lui.
« D'accord.
Il faut que je t'avoue quelque chose, » commença-t-il sur le ton de la confidence.
« Quelque chose dont je n'ai jamais parlé à personne. »
Un silence s'installa, qui dura près d'une minute. Je pris à mon tour une cigarette dans son paquet pour lui laisser le temps de rassembler ses souvenirs.
« En décembre 1958, 4 ans et demi après sa disparition, j'ai reçu un coup de fil de mon père.
« Tu plaisantes ?»
Il tira une dernière longue bouffée de tabac et d'un geste nerveux expédia le mégot sur le gravier.
« Il m'a dit qu'il se trouvait à New York et qu'il voulait me rencontrer le plus vite possible. Il m'a demandé de ne parler à personne de son appel et m'a fixé rendez-vous pour le lendemain dans un bar du terminal JFK. »
Fébrile, il croisa ses doigts noueux. Alors qu'il continuait son récit, je voyais ses ongles s'enfoncer dans sa chair.
J'ai pris le train pour le rejoindre à l'aéroport. Jamais je n'oublierai ses retrouvailles. C'était le samedi précédent Noël. Il neigeait. Beaucoup de vols étaient retardés ou annulés. Mon père m'attendait, assis à une table, derrière un martini. Il semblait épuisé et avait une tête de déterré. Nous nous sommes serrés dans les bras l'un de l'autre. Et pour la première fois, je l'ai vu pleurer.
Que s'est-il passé ensuite ?
D'abord, il m'a dit qu'il devait prendre un avion et qu'il avait peu de temps. Puis, il m'a expliqué qu'il nous avait abandonnés parce qu'il ne pouvait faire autrement. Sans préciser lesquels, il m'a confié avoir de gros ennuis. Je lui ai demandé comment je pouvais l'aider, mais il m'a répondu qu'il s'était mis dans le pétrin tout seul et qu'il devait trouver par lui-même un moyen d'en sortir.
J'étais abasourdi.
Et ensuite ?
Il m'a fait jurer plusieurs choses. Ne révéler à personne qu'il était toujours en vie, ne jamais vendre 24 Winds Lighthouse, Ne jamais ouvrir la porte métallique de la cave du phare et la faire immédiatement murer. Bien sûr, il a esquivé toutes mes questions. J'ai voulu savoir quand je le reverrai. Il a posé la main sur mon épaule et m'a dit « Peut-être demain, peut-être jamais. » Il m'a interdit de pleurer et m'a ordonné d'être fort et de me comporter en chef de famille à présent qu'il n'était plus là. Puis, au bout de 5 minutes, il s'est levé, a avalé une dernière gorgée de martini, puis il m'a dit de m'en aller et de suivre ses consignes. C'est une question de vie ou de mort, Franck. Telles furent ses ultimes paroles.
Stupéfait par cette confession tardive, je le relançai. Et toi, qu'as-tu fait ?
J'ai suivi ses instructions à la lettre. Je suis rentré à Boston, et le soir même, je me suis rendu au phare, où j'ai construit dans la cave le mur de briques.
Et tu n'as jamais ouvert la porte ?
Jamais.
Je laissai passer un silence. Je refuse de croire que tu n'aies jamais cherché à en savoir plus. Il écarta les bras en signe d'impuissance.
J'avais promis, Arthur. Et puis, si tu veux mon avis, il n'y a que des emmerdes derrière cette porte.
Tu penses à quoi ?
Je donnerais n'importe quoi pour le savoir, mais je tiendrai ma promesse jusqu'à ma mort.
Je pris le temps de la réflexion, puis dis « Attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. À l'automne 1954, lorsque Sullivan a subitement disparu, on a fouillé le phare, n'est-ce pas ?»«
Oui, de fond en comble. D'abord ta grand-mère, puis moi, puis le shérif du comté et son adjoint. »
« Donc à l'époque, vous avez ouvert la porte ?»«
Oui. Je me souviens très bien d'une pièce vide d'à peine 10 mètres carrés au sol en terre battue. »
Il n'y avait pas de trappe ou de passage dissimulé ?
Non, rien. Je l'aurais remarqué.
Je me grattais la tête. Tout cela n'avait aucun sens. Soyons réalistes, dis-je. Qu'est-ce qu'on pourrait y trouver ? Au pire, un cadavre ? Plusieurs cadavres ?
J'y ai pensé, naturellement.
En tout cas, si tu as muré la porte en 1958, même s'il s'agit d'une affaire de meurtre, il y a prescription depuis longtemps. Franck laissa passer quelques secondes. Puis avoua d'une voix blanche
« Je pense que ce qu'il y a derrière cette porte est beaucoup plus terrible qu'un cadavre. »
II. Le ciel était devenu noir. Le tonnerre gronda, quelques gouttes de pluie éclaboussèrent les documents juridiques. Je pris le stylo, paraffai toutes les feuilles et apposai ma signature sur la dernière page.
« Je crois que c'est foutu pour la pêche. »
lança mon père en se protégeant de la pluie.
« Je te ramène chez toi ?»«
Je suis chez moi, » répondis-je en lui tendant le double du contrat signé. Il eut un rire nerveux et rangea le document dans sa mallette. En silence, je le raccompagnai à son pick-up. Il s'installa au volant, inséra la clé de contact, mais avant qu'il allume son moteur, je cognai contre la vitre.
« Pourquoi me demandes-tu ça à moi ?»
Je ne suis pas l'aîné de la famille. Je ne suis pas celui avec qui tu t'entends le mieux. Alors pourquoi moi ?
Il haussa les épaules, incapable de répondre.
Tu veux protéger les autres, n'est-ce pas ? Tes vrais enfants ?
Ne sois pas stupide !
S'énerva-t-il. Il soupira bruyamment.
D'abord, j'ai détesté ta mère, pour m'avoir trompé, concéda-t-il. Puis, je t'ai détesté, toi, c'est vrai, parce que ton existence me renvoyait chaque jour à cette tromperie. Mais avec les années, c'est moi-même que j'ai fini par haïr.
Il désigna de la tête la silhouette du phare qui se découpait sous la pluie et éleva la voix pour couvrir le bruit de l'orage.
La vérité, c'est que ce mystère m'obsède depuis plus de 30 ans et je crois que tu es la seule personne capable de le résoudre.
Comment veux-tu que j'y arrive sans ouvrir cette porte ?
Ça, à présent, c'est ton problème,
lâcha-t-il en allumant le moteur. Il appuya sur l'accélérateur et démarra brusquement, faisant crisser le gravier sous les roues de la camionnette qui disparut en quelques secondes, comme avalée par l'orage. 3. Je courus vers la maison pour me mettre à l'abri. Dans le salon puis la cuisine, je cherchais sans succès un fond de whisky ou de vodka, mais il n'y avait pas la moindre goutte d'alcool dans ce maudit phare. Dans un placard, je trouvai une vieille cafetière italienne moka et un reste de café moulu. Je mis de l'eau à chauffer, versai la mouture dans un filtre et me préparai une grande tasse d'un breuvage que j'espérais revigorant. En quelques minutes, une odeur agréable envahit la pièce. L'expresso était amer et sans mousse, mais il m'aida à recouvrer mes esprits. Je restai dans la cuisine, attablé derrière le comptoir en bois cérusé. Pendant une bonne heure, alors que la pluie redoublait, je parcourus avec attention l'ensemble des documents juridiques que m'avait laissé mon père. Les photocopies des différents actes de vente permettaient de reconstituer l'historique du bâtiment. Le phare avait été construit en 1852. Il consistait au départ en une maisonnette en pierre, en haut de laquelle on avait aménagé un petit dôme contenant une lanterne composée d'une dizaine de lampes à huile qui furent bientôt remplacées par une lentille de Fresnel. À la fin du XIXe siècle, l'édifice avait été ravagé par un éboulement et un incendie. La structure actuelle, la tour en bois et la maison attenante, avaient été construites en 1899 et 10 ans plus tard, on avait équipé le phare d'une lampe plus moderne, à kérosène. L'électrification était venue en 1925. En 1947, le gouvernement américain avait jugé que le phare n'était plus un lieu stratégique et s'en était défait lors d'une vente aux enchères au cours de laquelle avaient été adjugés plusieurs autres anciens bâtiments militaires. D'après les documents que j'avais sous les yeux, le premier propriétaire s'appelait Marco Horowitz, né en 1906 à Brooklyn, décédé en 1949. C'est sa veuve, Martha, née en 1920, qui avait vendu le phare à mon grand-père, Sullivan Costello, en 1954. Je fis mentalement le calcul. Cette Martha avait aujourd'hui 71 ans. Il y avait une forte probabilité qu'elle soit encore en vie. Je pris un stylo qui traînait sur le comptoir et soulignai l'adresse qu'elle avait fournie à l'époque. 26 Preston Drive, à Tallahassee, en Floride. Je décrochai le téléphone mural et appelai les renseignements. Il n'y avait plus de Martha Horowitz à Tallahassee, mais l'opératrice trouva une Abigail Horowitz dans la même ville. Je la priai de me mettre en relation avec ce numéro. Abigail décrocha. Je me présentai et lui mentionnai l'objet de mon appel. Elle m'apprit qu'elle était la fille de Marco et de Martha Horowitz. Sa mère était encore en vie, mais depuis 1954, elle avait eu le temps de se remarier 2 fois. Elle portait désormais le nom de son mari actuel et vivait en Californie. Lorsque je demandai à Abigail si elle se souvenait de 24 Winds Lighthouse, sa réponse fusa. « Bien sûr, j'avais 12 ans lorsque mon père a disparu. » Disparu. Je fronçai les sourcils en relisant mes documents. « D'après l'acte de vente que j'ai sous les yeux, votre père est décédé en 1949, c'est bien ça ?»« Mon père a été déclaré mort à cette date, mais c'est 2 ans plus tôt qu'il a disparu. »«
Comment ça, disparu ?»
C'était à la fin de l'année 1947, 3 mois après avoir acheté le phare et sa petite maison. Papa et maman adoraient la région et avaient l'intention d'en faire notre résidence de vacances. À l'époque, nous vivions à Albany. Un samedi matin, mon père reçut un coup de fil du shérif du comté de Barnstable pour le prévenir qu'un arbre de la propriété avait été foudroyé la nuit précédente et s'était abattu sur une ligne électrique. D'après le policier, l'orage avait également endommagé le toit en ardoise de la maison. Mon père prit sa voiture et se rendit à 24 Winds Lighthouse pour constater l'étendue des dégâts. Il n'en est jamais revenu. Que voulez-vous dire ? 2 jours plus tard, on a retrouvé sa Oldsmobile garée devant la bâtisse, mais aucune trace de papa. Les flics passèrent le phare et les alentours au peigne fin, sans trouver aucun indice pour expliquer sa disparition. Ma mère garda espoir et attendit des jours, des semaines, des mois. Jusqu'au début de 1949, où un juge déclara mon père officiellement mort pour pouvoir procéder à sa succession. J'allais de surprise en surprise. Jamais je n'avais entendu parler de cette histoire. Votre maman a attendu 5 ans avant de remettre le phare en vente? Ma mère ne voulait plus entendre parler de cette maison. Elle s'en est désintéressée jusqu'au moment où elle a eu besoin d'argent. Elle en a alors confié la responsabilité à un agent immobilier de New York, en lui demandant de ne surtout pas prospecter auprès des gens du coin, qui avaient tous eu vent de la disparition de mon père et qui étaient nombreux à considérer à présent que le phare portait malheur. Et depuis, vous n'avez jamais eu de nouvelles de votre père ?
Plus jamais, affirma-t-elle, avant de se reprendre. Sauf une fois.
Je gardai le silence pour lui permettre de continuer.
En septembre 1954, il y eut un dramatique accident à New York entre les gares de Richmond Hill et de Jamaïca. Ce fut une véritable boucherie. À l'heure de pointe, à pleine vitesse, Un train bondé en a percuté un autre qui entrait en gare. L'accident a fait plus de 90 victimes et près de 400 blessés. C'est l'une des pires catastrophes ferroviaires de tous les temps.
J'en ai déjà entendu parler. Mais quel rapport avec votre père ?
Dans l'une des rames se trouvait l'un de ses collègues. Il a été blessé, mais il a survécu. Après le drame, il est venu voir ma mère à plusieurs reprises, en prétendant que mon père se trouvait dans le même wagon que lui et qu'il avait péri dans l'accident.
Tandis qu'elle parlait, je prenais des notes à toute vitesse. Les similitudes avec ce qui était arrivé à mon grand-père étaient flippantes.
Bien sûr, on n'a jamais retrouvé le corps de mon père dans ce train, mais j'étais adolescente à l'époque et les propos de cet homme m'ont beaucoup troublée. Il croyait dur comme fer à ce qu'il racontait.
Une fois qu'Abigail eut terminé son récit, je la remerciai pour ses informations. Alors que je raccrochais, je pensais à son père et à mon grand-père. Deux hommes, avalés par les entrailles du phare, frappés à quelques années d'intervalle par la malédiction qui planait sur ce lieu. Un lieu dont j'étais désormais l'unique propriétaire.